Bonsoir. Une marche pour le climat à travers le monde, un mouvement citoyen. En France, l'initiative a d'autant plus de sens après la démission de Nicolas Hulot. Reportage dans le cortège parisien dans un instant. Au sommaire également, les bombardements syriens et russes s'intensifient sur Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Dernier bastion des rebelles où vivent 3 millions de civils. Le cri d'alarme de Médecins sans frontières sur le sort des migrants en Libye. Ils sont détenus dans des conditions misérables et l'insécurité grandissante à Tripoli les met en danger. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale des premiers secours. On verra que les Français ne sont pas très bons élèves en la matière. C'est un mouvement spontané, non pas des ONG ou des politiques, mais de la rue. Un peu partout dans le monde, des milliers de citoyens participent à une marche pour le climat. Le constat est le même, la planète va mal et si nous ne faisons rien, cela va empirer. Objectif, faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils agissent contre le réchauffement climatique. En France, le mouvement s'inscrit dans un contexte particulier, la démission de Nicolas Hulot. Lucas Scaltriti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi le cortège parisien?
Oui. Et sur une banderole parmi les centaines brandies par les manifestants cet après-midi, il est écrit
« Gaulois réfractaire au changement, trois petits points, climatique ».
Celui qui la tient s'appelle Pierre. Avec ce slogan, il interpelle directement le président, faisant référence à une de ses récentes sorties. Il y a 10 jours, Emmanuel Macron assurait que les Français qu'il appelle gaulois étaient réfractaires au changement. Pierre se sait donc taquin, mais assume.
Ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité, hein, globalement, c'est beaucoup plus fort que toutes les phrases des politiciens, etc. Donc la récupération politique, il y en a assez. Il faut que ce soit les citoyens qui s'emparent de ce problème-là et qui l'imposent comme le premier sujet à étudier et à traiter dans ceux qui gouvernent la planète, à savoir les politiques, mais aussi les industriels, etc., etc.
Et ça justement, Simon l'a bien compris. Sur sa pancarte, il est inscrit « Leur bourse ou nos vies » pour cet étudiant. C'est tout un système qui est à changer.
Est-ce qu'à un moment on va se préoccuper plus des indicateurs économiques et notamment de ceux dont on sait qu'ils sont très critiquables comme le PIB, comme la croissance, ou est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur des questions bien plus concrètes en vérité, qui sont des questions de survie, des questions de gestion des ressources, des questions bref, qui touchent à la réalité?
Et ce changement de philosophie pour Simon et d'autres manifestants passe par une coopération internationale. Emmanuel Macron n'était pas le seul visé aujourd'hui. Tous les chefs d'État sont interpellés.
Merci Lucas Scaltriti pour France Culture. C'est le dernier bastion de l'opposition syrienne. Idlib, au nord-ouest de la Syrie, 3 millions de personnes y vivent dans la crainte des raids aériens. Le régime de Damas mène des bombardements depuis plusieurs jours sur cette enclave, avec l'aide de son allié russe. Et les bombardements se sont intensifiés ces dernières heures. Aurélien Colli.
Près de 60 frappes aériennes en 3 heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis un mois, ce sont les raids les plus intenses menés par l'aviation russe sur ce dernier bastion rebelle du Nord, frontalier de la Turquie. Une enclave dont le régime syrien veut se débarrasser, appuyée par ses alliés Moscou et Téhéran. Cette vague de bombardements a visé des localités du sud et du sud-est, comme pour resserrer l'étau avant une ultime offensive au sol des forces du régime syrien. Les appels de l'ONU, des pays occidentaux et des ONG pour éviter un drame humanitaire ne semblent pas avoir dissuadé Moscou. Pas même ceux de la Turquie, assise pourtant à la même table hier à Téhéran, pour mettre en garde contre un bain de sang. Cessez-le-feu réclamé par le président turc, soutien des forces rebelles et qui redoute surtout l'afflux de 800 000 réfugiés sur son territoire. Mais fin de non-recevoir de Vladimir Poutine, pour qui la lutte contre le terrorisme est la priorité. Idlib, c'est 3 millions de civils et plusieurs milliers de rebelles ou djihadistes qui y ont convergé à chaque étape de la reconquête du territoire par le régime. Homs, Alep, Raqqa, Dera, à chaque fois c'est était à la faveur d'accords négociés. Cette fois-ci, pas d'accord et plus d'échappatoire de ce sanctuaire que Damas veut liquider.
Un nouveau couvre-feu imposé ce soir sur Bassora, dans le sud de l'Irak. La deuxième grande ville du pays est le théâtre de violentes manifestations depuis plusieurs jours. Pas moins de 12 personnes tuées en une semaine. Les manifestants dénoncent notamment l'inertie des pouvoirs publics et la corruption. Ils réclament la fin des pénuries d'eau et d'électricité. Le Parlement irakien tient une réunion de crise sur Bassora en présence du Premier ministre irakien, Haïdar al-Abadi. Les deux listes parlementaires arrivées en tête des législatives de mai réclament sa démission. En Égypte, soulagement pour le photoreporter égyptien Shaokan. Le journaliste sort de prison après 5 ans de détention. La justice l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ce matin. Peine qu'il a donc déjà purgée. Il risquait la peine de mort. Mahmoud Abou Zaïd, de son vrai nom, a été arrêté en août 2013. Il couvrait la violente dispersion par les forces de sécurité égyptiennes des manifestants qui soutenaient le président déchu, Mohamed Morsi. Le tribunal égyptien confirme également la condamnation à mort, cette fois de 75 personnes, dont des dirigeants des frères frères musulmans. La Libye, toujours en proie à de violents combats entre milices aux alentours de Tripoli. Les affrontements durent depuis une dizaine de jours. Conséquence, le danger s'accroît pour les milliers de réfugiés et de migrants qui sont confinés dans des centres de détention. Cri d'alerte lancé ce week-end par Médecins sans frontières. L'ONG dénonce leurs conditions générales de détention. Elles sont très inquiétantes, souligne Michael Neumann, directeur des recherches et spécialiste des questions migratoires à MSF.
L'ensemble des migrants sont détenus non pas dans des centres de détention officiels, mais dans ces prison de fortune aux mains des trafiquants et régulièrement torturés. Si on parle des centres de détention officiels, aux mains des autorités libyennes ou de ce qu'il en reste, MSF a accès à quelques-uns de ces centres, c'est vrai à Tripoli, c'est vrai dans d'autres villes comme à Homs, par exemple. Enfin, le dispositif de secours, je dirais, aux personnes qui sont détenues reste à la fois minimum et évidemment se montre tout à fait incapable de répondre aux besoins des personnes qui s'y trouvent. Des personnes d'ailleurs qui n'ont aucune raison de se trouver en détention, c'est quand même la première chose à dire. Et puis ce qu'on note aussi, c'est que la capacité de sortir ces gens de ces centres, elle est très limitée. La France a fait quelques gestes en ouvrant une plateforme de transit un petit peu par le Niger, mais dont on voit qu'elle est rendue inopérante par l'incapacité propre de la France à admettre des gens sur son territoire. Et pour le reste, on a aujourd'hui des centres qui sont quand même très densément peuplés et dont la situation des gens qui s'y trouvent est quand même très très précaire.
Des propos recueillis par Nadine Epstein pour France Culture. Il veut, dit-il, faire de sa mouvance le premier parti parlementaire européen. C'est dans cette optique que Matteo Salvini, le chef de file de l'extrême droite italienne et ministre de l'Intérieur, a reçu l'ex-conseiller du président américain Steve Bannon. Selon Matteo Salvini, les élections européennes de mai 2019 sont une occasion, je cite, de sauver l'Europe. Sur la même longueur d'onde, Steve Bannon y voit lui un moyen pour les populistes de prendre la main. Lui aussi se projette en vue des européennes du printemps 2019. Alain Juppé réunit ses partisans ce week-end à Bordeaux. Au cœur des discussions, la meilleure stratégie à adopter lors de ce prochain scrutin. Plusieurs options possibles, une candidature autonome, une alliance au centre ou avec les Républicains. Le déficit public sera inférieur à 3% du PIB en 2018 et 2019, annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En 2017, nous sommes passés pour la première fois sous la barre des 3% de déficit public et nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif, déclare-t-il. Ce n'est pas pour y retourner dans un ou deux ans, ajoute-t-il. Quel geste faut-il faire face à une victime d'un arrêt cardiaque, par exemple ? Pas si facile de répondre, d'où la journée mondiale des premiers secours. Elle se tient donc aujourd'hui. En France, c'est la Croix-Rouge qui forme aux bons réflexes à adopter, par exemple en cas d'hémorragie, de crise cardiaque ou d'étouffement. Et les Français sont loin d'être les meilleurs élèves par rapport à nos voisins allemands ou suédois. Tara Schlegel.
Théoriquement, un tiers de la population française connaît les gestes qui sauvent. Dans la réalité, regrette Louis-Marie Poitou, responsable de la formation à la Croix-Rouge, ils sont bien moins nombreux à savoir intervenir.
Le passage à l'acte, il est encore moins important. On sait que la majorité des personnes formées redoutent de mettre en œuvre le geste pour lequel ils ont été formés, soit parce qu'ils ne s'en souviennent plus, soit parce qu'ils ont peur d'aggraver l'état de la victime. Or, les gestes qu'on apprend, ils ne peuvent jamais aggraver l'état de la victime, bien au contraire. Ça sauve une vie et ça s'apprend en quelques minutes. En 30 minutes, à la Croix-Rouge, on a des modules qui vous permettent d'utiliser un défibrillateur, de mettre en place un massage cardiaque efficace.
Une personne meurt d'une crise cardiaque en France toutes les 10 minutes. Dans la très grande majorité des cas, ces accidents surviennent devant des proches. Les secours mettent en moyenne 13 minutes à arriver. Et pendant ces précieux instants, il faut pratiquer ces fameux gestes qui sauvent et qui n'ont rien de sorcier, assure Louis-Marie Poitou.
Un enfant de 8-10 ans, il est capable de mettre en œuvre un massage cardiaque chez un adulte. Par ailleurs, 7 fois sur 10, l'arrêt cardiaque se produit en présence d'un témoin, donc en présence d'une personne qui aurait pu mettre en place un massage cardiaque, poser un défibrillateur s'il avait été à disposition. Et donc, tout l'objectif de ces rendez-vous-là, c'est de prendre conscience en fait que c'est des gestes qui sont simples, qu'il faut parfois se remémorer, mais qui ont de grandes chances de sauver la vie de nombreuses personnes.
Ce samedi, dans 150 villes, les bénévoles de la Croix-Rouge seront à l'œuvre pour initier gratuitement les citoyens.
La journée de demain sera ensoleillée, le temps sera tout de même orageux et lourd dans le sud-ouest du pays. Sur la moitié nord de la France, le soleil l'emportera malgré la présence d'un voile nuageux. Côté température, elles seront douces, comprises entre 11 et 17 degrés en général, 16 à 21 sur les régions méditerranéennes.